La conférence a beaucoup souligné le fait que l'évangile à l'époque de François était chanté.
Oui.
Pourriez-vous nous dire plus? C'est-à-dire, est-ce que le diacre se trouvait en face d'un manuscrit, c'est-à-dire les paroles étaient insérées dans une partition?
Oui.
Est-ce qu'il y avait une composition précise? Ou est-ce qu'il pouvait s'inspirer
d'une mélodie bien
connue de l'époque,
oui,
de musique sacrée? Ou est-ce qu'il improvisait?
Oui, alors,
est-ce que c'était semblable à l'Eucharistie quand on chante?
Alors vous portez à la fois des questions de fond et puis des questions de forme, hein, je veux dire pratiquement comment ça se passait. Donc deux, trois éléments de réponse. Donc non seulement les diacres ont toujours quelque chose à voir, vous allez voir, pour une seconde je vais quitter François, mais c'est un certain intérêt, non seulement les diacres ont toujours quelque chose à voir avec la proclamation solennelle de l'évangile, donc non seulement vers le troisième, ça commence à être attesté, quatrième totalement, c'est un saint diacre qu'on doit les refrains, non pas dans les homélies, mais qu'on doit les refrains dans nos cantiques. Pourquoi ? Parce que donc à cette époque, Ephrem, comme tous les diacres, chantait l'évangile, et Ephrem, qui était un diacre attentif, c'était aussi le rôle des diacres d'être attentif à la tenue de l'assemblée, il a envoyé quelques-uns qui commençaient à piquer du nez. Alors il a inventé le refrain, ce qui fait qu'il arrêtait son homélie au bout d'un certain nombre de phrases, il faisait chanter « Dieu soit loué, Alléluia », donc tout le monde chantait, se réveillait, il allait encore un petit morceau, etc. Donc vous voyez, les diacres ont vraiment un lien étroit avec cette cantillation. Deuxièmement, donc, la question, sauf ceux qui connaissent la liturgie gouzantine, où effectivement l'évangile est, dans la liturgie latine, je parle, hein, l'évangile est chanté, donc sur une mélodie gouzantine aussi, hein, celle du Père Gouze, hein. Il y a peut-être d'autres d'ailleurs, mais c'est la seule que je connaisse pour le rite latin, hein, comme Zilted d'ailleurs, que j'ai plaisir à chanter dans le rite gouzantin, mais les églises d'Orient, on n'a pas le droit de réciter et de lire, hein, donc on le chante. Donc c'est un problème propre à l'Église latine. Et je ne sais pas quand est-ce que c'est apparu, quand est-ce que le chant a disparu. Maintenant, le problème concret, à savoir comment il faisait, hein, et qu'est-ce qu'il chantait. Alors pour Ephrem, c'est simple, parce qu'il a mis en tête de ses homélies « Je la chante sur l'air de... » Alors c'est l'air dû à la Clairefontaine, des choses comme ça. Hein. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'était à l'époque, mais « Allons nous promener dans les bois » ou des choses comme ça. Donc il prenait, comme beaucoup plus tard, Saint-Louis-Marie pour des chants religieux, il prenait les chansons que tout le monde connaissait, quoi. Donc au Moyen-Âge, on n'a pas d'enregistrement. Et alors là, je vais m'avancer, là, je connais beaucoup moins, mais je pense me souvenir que c'est plus ou moins au tournant du millénaire que les neumes, hein, donc ces notes, hein, commençaient à apparaître. Là aussi, il y a un diacre qui est dans le coup. Hein, vraiment, ils sont partout, vous allez dire. Mais au 9e siècle, Paul Diacre, c'est-à-dire Paul Wartenfridus, mais on l'a appelé de son nom de diacre, écrit un hymne à Saint Jean-Baptiste dont nous connaissons tous les premières syllabes. Hein. Aucun parmi nous, je pense, ne les connaît pas. Parce que ça commence « ut queant », je ne sais plus quoi, « raisonare », machin, truc, « mi », etc., « fa », « sol », etc. Et au deux siècles après, Guy d'Arezzo met des notes, hein, le « ut »,« ré », « mi », « fa », « sol », « si », « do », etc. Donc c'est comme ça que nous avons notre gamme. Hein. Et que je crois que c'est plus ou moins parallèle qu'on commence à avoir d'abord des petites griffures intercalaires, puis peut-être une ligne et deux. Enfin, là je ne suis pas du tout spécialiste de cette période, j'ai lu des choses, mais il y a tellement longtemps. Hein. Donc, c'est des choses. Il ne faut pas imaginer nos partitions de chants d'aujourd'hui, hein, avec les lignes bien claires et tout. Ah, non, non. C'est des choses qui se sont faites. Et c'est encore une époque où, très largement, j'en ai pas tout de suite à tête, mais je pourrais citer des théologiens, philosophes du Moyen-Âge. C'est une époque pour laquelle la parole, et donc le chant oral, est bien plus importante que la parole écrite. Hein. Parce que la parole écrite, Platon le disait déjà, je vous donne un texte écrit, vous en faites ce que vous voulez. Ma parole, si vous dites « Ah, ça veut dire ça », je dis « Ah non, je regrette, là, tandis qu'avec l'écrit est très faible, il ne peut pas se défendre par lui-même. Hein. » Donc on peut penser que l'essentiel se passait de façon orale et que les futurs diacres, depuis qu'ils étaient gamins, ils entendaient. Donc ça se faisait par osmose, je suppose. Hein. Mais certainement, le problème était, puisque je l'ai évoqué, le problème était que ceux qui étaient des vrais chanteurs en rajoutaient, mettaient des fioritures, des vocalises et tout ce qu'on voulait, et que les pauvres gens, ils comprenaient plus rien, quoi, comme un air d'opéra aujourd'hui sur les paroles. Hein. Et là, donc, les papes disent non, non, restez sobres, et que ce soit la récitation, le chant de l'évangile gougentin ou le rite byzantin, puisque c'est le mien, comme je suis diacre spirituel, c'est sobre. Hein. C'est une petite flexion en haut, en bas, des choses comme ça, c'est pas du grand opéra, quoi. Voilà ce que je peux répondre à cette question très précise.
Est-ce que vous pouvez
nous
donner un exemple? Est-ce que vous êtes chanteur?
Oh là, il faut être dans le milieu. Est-ce qu'il y a un évangile sous une parole d'évangile? Parce que je ne peux pas prendre une parole du livre. Non, parce que si je prends Notre Père, je vais réciter celui j'ai chanté celui de Rimsky comme tout le monde. Attendez, est-ce que j'ai au moins deux, trois lignes d'évangile quelque part, que ça me donne le... C'est pas facile, parce que on est vraiment... C'est l'habit fait le moine. Hein. Quand je suis en vêtements byzantins, je sais chanter l'évangile. Quand je suis en vêtements latins, je sais pas, hein, ou très peu. Très mal. Hein. Non, mais c'est... Que Dieu nous... Oui, il y a peut-être un chanteur, là. Oui, vas-y, Chantal, chante.
La question que je me pose, c'est...
Est-ce oui, donc je m'excuse. Hein.
Est-ce qu'il y a des frères franciscains qui sont diacres et uniquement diacres?
Aujourd'hui?
Oui.
Ah non, il y en a un à Paris. Il est toujours à Paris, non?
Bah, qui sont diacres.
À Toulouse, non, j'ai une bêtise. À Toulouse, j'étais en contact et on a parlé, je lui ai envoyé le manuscrit, tout ça. Oui, oui.
Il est à Toulouse. On a l'impression que des fois, il y a l'interrogation de frère,
oui.
Frère,
oui.
On appelle ça. Et puis, le choix, ça, c'est
oui.
Mais là, je me pose la question, alors, est-ce qu'il y a des frères religieux qui ne sont que diacres?
Alors, la question s'est posée dans tous les ordres. Hein. Il y a par exemple le frère Faure, un jésuite très connu qui est diacre, hein. Pierre Faure, oui. Donc, là, je dirais, là-dessus, j'ai pas d'idée. Je pense que les réponses ont été plurielles. Hein. Alors là, chaque ordre a fait soit dit qu'un, c'est pas mal, soit au contraire dit non, ça correspond pas à ce qu'on est. Là-dessus, ce qui est arrivé, ce qui complique les choses, là, c'est pas pour regretter la restauration Vatican II, au contraire, mais il faut reconnaître que dans au moment de Vatican II, le diaconat a été restauré, en fait, c'est d'ailleurs dit dans le grand travail de la commission théologique sur le diaconat, international sur le diaconat, il était restauré parce que Vatican II pensait que quelque chose manquait à l'Église. Et donc le diaconat n'a pas été restauré pour lui, mais parce qu'il y avait quelque chose qui était bancal dans la structure de l'Église. Hein. Que donc pour que l'Église soit encore plus florissante, on a restauré le diaconat. Or, d'autre part, il voyait surtout dans les églises du tiers-monde. Hein. Ça a été fait essentiellement dans les églises d'Occident, et donc dans des églises où, un peu partout, la question du manque de prêtres a commencé à se poser. Donc tout ça, ça a parasité. Les diacres, ils sont pour rien, mais c'est une question de fait. Et je pense, pour les ordres aussi, on leur demandait leur propre aggiornamento, tout cela. Donc ça faisait beaucoup de choses. Hein. Donc les réponses, alors là, je porte aucun jugement, hein, mais j'ai simplement l'impression d'un ordre à l'autre, il y a eu des réponses différentes.
D'abord, je voudrais vous remercier pour cette conférence nourrissante et
merci.
Très documentée, à ceci près que vous avez très peu parlé des observances monastiques de l'époque de François,
oui.
Parce que je crois quand même que dans l'exemple que je vais donner,
oui.
C'est les Ecclesiastica Cistercien, Ecclesiastica Officia Cistercien, qui distinguent lévites et diacres.
Oui.
Donc, il faudrait regarder très précisément pour pouvoir... Parce que si le seul point réellement où on parle de François comme lévite,
oui.
On n'utilise pas le mot diacre,
oui.
Ça peut être son importance... Et c'est seulement les usages monastiques, ou peut-être du rendement que vous avez cité à plusieurs reprises et qui regroupe un certain nombre d'usages liturgiques, qui peut déterminer, nous permettre de mieux savoir ce qu'est le service du lévite et le service du diacre.
Oui.
Je crois savoir que le diacre était ordonné, le lévite ne l'était pas.
Chez les cisterciens, vous parlez.
Chez les cisterciens, oui. Et donc chez les moines. Et simplement, le mot lévite renvoie évidemment aux lévites de l'Ancien Testament, qui, eux, s'occupaient de l'autel.
Oui.
C'est-à-dire, au fond, on dirait que c'était des grands clercs.
Oui, même si le mot a deux sens différents selon le moment de la Bible où on parle, quoi.
Oui, oui, non, mais ce que je crois, c'est qu'en fait, il y a eu une référence. Alors, il y a peut-être eu des périodes dans les débuts du christianisme où on a utilisé un mot pour l'autre, mais il y avait quand même des listes de ministères dans les premiers siècles. Je crois que c'est Alexandre Fèvre qui a étudié cela. Donc il faudrait regarder plus précisément et ne pas non plus faire des projections, ni à partir du passé sur une époque, ni à partir du présent sur l'époque ancienne. Et je trouve que de vouloir aller trop vite, voir en saint François quelqu'un qui va nous inspirer pour aujourd'hui, me semble être un peu indu. Parce que je ne peux pas dire exactement qu'est-ce que François a vécu dans son Lévita, je ne sais pas comment on dit. Et tout ce qui concerne, par exemple, le développement autour des lieux de l'Eucharistie, de tout ça, c'est dans les canons du Concile Latran, comme vous l'avez dit, et qui, effectivement, est la part réservée aux Lévites, dans les Ecclesiastica Officia Cistercia. Donc je dirais prudence. Prudence. Alors, il a été lévite, certainement. A-t-il été diacre au sens d'un diaconat ordonné? Là, nous n'avons aucun élément.
Alors là,
non, autant l'évangile, attendez. Non, l'évangile, c'est pas sûr, parce que dans les abbayes où l'abbé n'était ni diacre ni prêtre, c'est lui qui prêchait, qui lisait l'évangile et qui le commentait. Exactement comme il a commenté dans les salles du chapitre, les chapitres de la règle. Quand on dit que François absout, ce n'est pas un sacrement, c'est simplement une parole de réconciliation, de comment dire. Ce n'est pas un sacrement. La preuve, puisque c'est réservé au prêtre et que lui-même, en tant que chef religieux, lui distingue cela et envoie ensuite chez un prêtre pour se faire. Voilà. Je me permets d'apporter un certain nombre de documents.
Oui. D'accord. Alors maintenant, je vais essayer de répondre aux deux questions. La deuxième est quand même assez différente de la première. Si Latran IV a voulu mettre les points sur les i à propos de l'absolution, c'est qu'effectivement, elle était perçue comme une absolution par des abbés, par des diacres. Et donc l'Église a senti le besoin de remettre les points sur les i. Non, mais ça c'est la deuxième. La première, j'en ai, mais je ne sais pas quelle page. L'expression « Levita seu diaconus » est une expression qui est courante dès les premiers siècles de l'Église. Hein, et dès le premier siècle, on dit « les diacres sont des lévites ». Et le mot « levita » est parfois plus utilisé, parfois le mot « diaconus ». Non, compte tenu de la nature de la voie franciscaine, qui, à tort ou à raison, me semble s'écarter quand même pas mal de la voie monastique, je n'ai pas étudié la voie monastique. J'ai regardé la voie franciscaine. Et la voie franciscaine, dans l'Église, dans le monde, le lévita était le diacre, point. Là-dessus, je pense qu'il peut y avoir, alors encore une fois, en milieu monastique, la situation peut être très différente, mais que dans les écrits, que ce soit du rendement ou autre, les deux sont absolument interchangeables et la distinction est très bien faite avec le sous-diacre et avec les autres. Mais bon, là, on est encore dans l'interprétation par rapport à des documents qui, effectivement, sont fragmentaires.
La distinction entre tonsure cléricale et tonsure monastique est très claire à l'époque de François. La preuve, c'est que saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure exposent la différence.
Oui.
Et non seulement ça, mais dans saint Bonaventure, il dit même la façon de couper les cheveux.
Oui. J'ai une demi-page où je cite Saint Bonaventure et toute cette distinction. Mais après avoir lu le livre de M. Trichet, sur la tonsure et particulièrement au Moyen-Âge, j'avoue que je suis plus tout à fait sûr que c'est aussi clair que ça l'était pour Bonaventure et Thomas. Donc il y a la clarté, et ça on peut faire confiance à Bonaventure ou à Thomas ou à Durand-Demande ou à Pierre Lombard ou à tous, que là c'est clair, c'est logique, c'est... Mais après qu'on regarde en partie à partir des représentations iconographiques ou tel document, ça semble pas tout à fait aussi clair, quoi. Alors que vous avez raison, hein, c'est d'une clarté. Et j'ai cité, il y a une demi-page là-dessus, hein, sur toutes les précisions. C'est dans son commentaire des quatrième livre des sentences de Pierre. Hein, c'est...
Merci. Je voulais surtout aussi rajouter par rapport à l'interrogation de tout à l'heure, c'est que le pape François lui-même s'inscrit dans cette tradition.
Ah oui, quand il dit que les diacres doivent imiter, oui.
Que François était diacre.
Oui, non, mais là-dessus, ça, je prends la gifle par rapport à l'anachronisme complètement, parce que en tant qu'historien, bien sûr, je ne peux, qui est mon métier premier, je ne peux que dire que c'est pas bien de faire des anachronismes. Hein. Donc là, je me situe à un niveau métahistorique ou mystique, comme vous voulez, mais effectivement, il faut pas exagérer, mais cela dit, c'est quand même très frappant de voir par rapport à ce qu'étaient les diacres à l'époque de François, la distance quand même est nette plus grande entre eux et la restauration du diaconat de Vatican II. Bon, on peut dire bien sûr les pères du Vatican II. Où est-ce que le diaconat a eu une... Enfin, qui ne sait pas encore. Où est-ce que la restauration du diaconat a eu une impulsion décisive? C'était à Assise. Juste avant le concile, quand il y a une fameuse réunion à Assise, et que là, des évêques missionnaires, des diverses personnes se sont réunies et ont dit on va pousser pour que le diaconat soit restauré. Hein. Et là aussi, c'est simplement peut-être un simple hasard, mais c'est, le fait est que c'était à Assise.
Voilà. On peut remercier Didier d'avoir exploré avec le grand. Avec pas mal de recherches, cette question du François Diacre, pour l'interrogation. Elle sera peut-être encore toujours une question, mais enfin, les fouilles que tu as pu faire au cours de plusieurs mois, là, maintenant, sont intéressantes pour montrer bien quand même quel sens ça peut avoir.